Vous savez tous que le gouvernement a publié le week-end dernier les noms des mandataires des entreprises publiques. Selon la ministre du Portefeuille, ces 26 mandataires ont satisfait au concours organisé par le COPIREP. Cependant, certaines personnes considèrent que ces nominations ne reflètent pas les résultats du test. Le gouvernement devrait nommer des technocrates au lieu des politiciens. Quels sont les critères qui ont conduit à cette nomination? Nous faisons le point avec Patty Mapoukou, qui a justement fait une enquête sur la question. Il est là afin de nous renseigner davantage. Vous pouvez déjà poser vos questions, témoigner au 081 070 2050, parce que tout à l'heure, nous allons faire le point avec un responsable. Alors, Patty, quel a été votre constat sur terrain?
Il faut dire, Nicole, que tout le monde est au courant de ces nouvelles nominations, vu que tous les journaux en ont parlé hier. Rappelons que c'est depuis le mois de juin 2007 que les mandataires sortants des entreprises publiques assuraient les affaires courantes. Sur ce, ils ne pouvaient pas engager les entreprises qu'ils dirigeaient. Pas des dépenses, pas des mouvements du personnel, bref, tout a tourné au ralenti.
Comment réagissent les employés de certaines entreprises publiques sur la nomination des nouveaux mandataires?
Les agents de l'OFPT, par exemple, se disent satisfaits de la nomination des nouveaux mandataires à la tête de cette entreprise. Tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux mandataires, ces derniers demandent à ce que les nouveaux chefs puissent œuvrer dans l'intérêt de tout le monde. Écoutons-les.
On va les écouter dans un instant. Nous vous rappelons juste que vous avez la possibilité de réagir au 081 070 2050.
Oui, nous acceptons. C'est ça ce qui a été notre souhait. Bon, comme il y a les nouveaux mandataires, nous avons la foi qu'ils vont bien travailler. Sur base qu'on va signer quand même un peu le protocole d'accord, chacun va respecter les principes de ce protocole d'accord. Bon, nous leur souhaitons toujours la bienvenue. Nous souhaitons un bon travail. La patience, l'amour et l'unité.
Ce que nous avons demandé d'abord, c'était le départ de ce comité à cause de la gestion. Et aujourd'hui, comme cela vient de se faire, nous souhaitons maintenant que l'arrivée de notre comité puisse marcher selon les normes établies. Donc, autrement dit, de respecter les accords entre nous, entre l'employeur et les employés.
Nous sommes très heureux d'avoir apprendre ça. Bon, on est heureux. On n'a pas de commentaires à faire. S'ils ont l'amour dans leur cœur, tout va changer. Ça peut changer dans une minute s'ils ont l'amour. On leur demande seulement l'amour, ce que nous avons besoin. Parce qu'ils ont vu comment on a traîné dehors pendant longtemps. C'est parce que le comité sortant n'avait pas l'amour. On ne traîne pas, on est prêt à entrer. Bon, on a le temps de laver nos bureaux et tout. On ne traîne pas dehors parce qu'on a enterré ce que nous sommes prêts à entrer.
Certainement que le nouveau comité de gestion a entendu l'appel des agents de l'OCPT. Alors, comment, hormis l'OCPT, vous avez certainement recueilli l'avis des autres employés dans une autre entreprise,
hein, tout à fait, Nicole. Nous avons aussi été au LAC. Comme à l'OCPT, les employés des lignes aériennes congolaises se disent aussi satisfaits de cette nomination. Ces derniers demandent au nouveau comité de gestion de bien gérer l'entreprise. Nous vous prions de les écouter de nouveau.
Je suis très, très ému, d'ailleurs, parce que notre entreprise, partout ailleurs, on disait que l'entreprise est foutue, on va mettre tous les agents dehors. Et maintenant, nous avons cet espoir parce que le gouvernement, de lui-même, comme c'est sa société, il vient de mettre des mandataires. Je suis très fier de ça parce que avec cet espoir, savons que notre entreprise survivra encore. LAC, comme les gens disent que LAC n'existe plus, LAC est mort, non. LAC ne va pas mourir parce que, comme le gouvernement vient de songer à notre entreprise, c'est qu'il mettra l'outil du travail parce que c'est son entreprise. Sans outil du travail, cette entreprise n'est rien. Mais avec l'outil du travail, puisqu'il ne peut pas mettre des mandataires sans leur donner l'outil du travail. Comme ils ont mis les mandataires, j'en suis sûr qu'ils mettront quelque chose pour faire marcher cette entreprise. Nous leur demandons de bien gérer cette boîte. Si le gouvernement leur donne les moyens, qu'ils gèrent bien ces moyens. Parce que sans ces outils du travail, sans ces moyens, on ne sera rien. Alors je leur demande de bien gérer cette entreprise.
On aura certainement à faire le suivi hein, dans toutes ces entreprises. Hein.
Ah oui, les employés des LAC sont pessimistes. Hein. Ils sont optimistes, pardon. Oui. Donc, ils pensent qu'ils espèrent que ça va aller avec les nouveaux comités.
Ça va peut-être dorer le blason hein, des LAC. Qui sait, on aura à faire le suivi prochainement. Nous invitons tous ceux qui souhaitent réagir. Vraiment, vous êtes les bienvenus au 081 070 2050. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse email action@radiocapi.net. Est-ce que vous avez aussi eu à aborder cette question avec le reste de la population, l'homme de la rue? Qu'est-ce qu'elle en pense? Que pense exactement l'homme de la rue?
En tout cas, du côté de la population, les avis sont très partagés. Pour les uns, c'est bien de nommer les nouveaux mandataires à la tête de ces entreprises. Certains estiment que ces personnes méritent leur poste, mais d'autres pensent qu'il y a eu complaisance et la complaisance. Ils remettent en cause l'organisation du concours des mandataires. Pour les autres, ces nominations tombent à point nommé. Mais le gouvernement aurait dû installer à la tête de ces entreprises des technocrates au lieu des politiciens. Écoutons les réactions de la population.
Les hommes, madame. Mais pour les mots, ils ont toujours le droit, ils ont l'unité. Va gérer l'entreprise, madame. Parce que telle entreprise n'est pas comment. Hein? Après, on a fait le coup là, on a travaillé. On a travaillé que bas bas cogissi les bas monsieur en retard il y a 4 mois bas monsieur sur 5 bas monsieur 3 mois il y a un paiement alors il y a un des trois cinq peut-être n'a pas ouvert bas ouya bas ça l'effort pour pas longer la défi ouana parce que même les alliés locaux la montée mais il y a l'état mais si bas ça vous gérez en madame tout le monde qui est bien
fait nous avons vu le nom et le figure mais c'est les résultats qui vont parler sur le travail qui va partir. On peut toujours continuer à nommer 10 000 fois mais si sur le plan social on ne sent pas hein, le changement, donc les nominations ne serviront à rien.
Oui, je l'ai appris par la voix de la presse. Et j'ai un sentiment de regret parce que je m'attendais à voir à la tête des entreprises du portefeuille des technocrates et non des politiciens. Et non, rien du tout, bien au contraire. Les choses vont continuer à s'empirer. Donc ceux qui ont la charge de manager l'entreprise, je ne pense pas qu'ils vont privilégier l'intérêt général. Et il a fallu laisser le coopérep faire le travail. Ça veut dire que le coopérep devrait faire une sélection après les interviews qui ont lieu au Grand Hôtel de Kinshasa. Mais grande notre surprise de voir qu'il y a un certain nombre de mandataires qui n'ont pas pris part même au test.
Est-ce que vous partagez les mêmes avis, auditeurs de Radio KPI? Vous êtes les bienvenus au 081 070 2050. Ceux qui souhaitent nous écrire peuvent le faire aussi à action@radiocapi.net. Effectivement, beaucoup de gens hein, qui ont intervenu dans cette émission pour ce dossier. Hein. Mais bon, la porte est ouverte. Ils peuvent continuer à réagir. Nous en informe donc le point avec des responsables. On s'arrête là afin de donner la parole à nos invités. Merci. Hein.
Je vous en prie, Nicole.
Souhaitez-vous connaître l'opinion de l'opposition, de la majorité au pouvoir, de la société civile sur l'actualité politique de votre pays? Oui? Alors ne cherchez plus. Radio Okapi répond à votre désir. Du lundi au vendredi, à 20h03, heure de Kinshasa, dans Le Débat. Pour que rien ne vous échappe, le lundi en Lingala, Lisolo. Le mardi en Swahili, Mazungu Muzo. Le mercredi, Le Débat en français. Le jeudi, en Chiluba, Muyuki. Et le vendredi, en Kikongo, Kinzongi. Ne ratez pas l'émission Le Débat sur Radio Okapi. Du lundi au vendredi, à 20h03, heure de Kinshasa.
Nous parlons maintenant de la nomination des mandataires dans les entreprises publiques. Vous avez suivi tout à l'heure les réactions de la population. Nous avons été aussi dans certaines entreprises de la place. Vous pouvez continuer à réagir toujours au 081 070 2050. Nous recevons pour cette question Bernard Mena, le directeur de cabinet de la ministre du portefeuille. Bernard Mena, bonjour. Allô, Bernard. Alors, on a eu un petit problème de communication avec notre invité. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de corriger cela. On va le rappeler afin qu'il nous donne d'autres détails hein, sur cette question. Le gouvernement devrait nommer des technocrates au lieu des politiciens. Nous avons suivi un auditeur qui nous l'a dit, un auditeur qui est assis Mapoko a eu interviewé. Et nous avons également entendu quelques réactions, notamment quels sont les critères qui ont conduit à cette nomination. Certainement que Bernard Mena, directeur de cabinet de la ministre du portefeuille, est bien placé pour nous donner d'autres détails hein, sur cette question. Mais il faut retenir que selon la ministre du portefeuille, ces 26 mandataires ont satisfait hein, au concours organisé par le COPIREP. Nous, on ne peut pas dire plus. Raison pour laquelle nous associons Bernard Ménard, directeur de cabinet de la ministre du Portefeuille, afin qu'il nous donne d'autres détails. Il est justement en ligne. Bernard Ménard, bonjour.
Bonjour, madame. Comment allez-vous?
Merci, ça va, merci. Alors, vous avez suivi tout à l'heure les réactions des auditeurs de Radio Capi. La population s'interroge. Certains nous ont dit que le gouvernement devrait nommer les technocrates au lieu des politiciens. Quels sont les critères qui ont conduit à cette nomination? Nous savons qu'il y a eu un concours organisé par COPIREP. Alors, finalement, comment est-ce qu'on est arrivé à ces nominations? Est-ce que réellement les nouveaux mandataires ont mérité leur poste?
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement, dans l'application de sa fonction exécutive, avait décidé que certains postes seraient pourvus via le concours, des postes qu'on appelle opérationnels, donc des fonctions de décision. Nous citons notamment le poste de directeur général, le poste d'administrateur directeur financier et le poste d'administrateur directeur technique. Donc ces trois postes aujourd'hui sont occupés à 100% par des personnes qui ont subi le concours du COPIREP. Comment a été organisé ce concours? Le COPIREP n'a été qu'un point focal, un réceptacle des candidatures. Mais les candidatures ont été sélectionnées, les tests ont été organisés par des maisons recrutées. Et des maisons recrutées qui sont spécialistes en la matière. Je cite PricewaterhouseCoopers, je cite la maison Deloitte. Donc ce sont ces maisons qu'on appelle communément des chasseurs de tête, qui ont procédé à l'étude de chaque cas, à la présélection sur titre, à la sélection après test écrit, et qui ont procédé notamment aux interviews, et ils ont dressé une shortlist qui a été présentée au niveau des autorités du pays, et les décisions ont été prises lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 11 janvier 2008.
Mmh. Et pour les autres
postes restants, donc les postes d'administrateurs externes, les postes de ADGA et les postes de président du conseil d'administration, cela a été laissé à la discrétion du pouvoir public, qui évidemment a tenu compte des critères d'expérience et d'expertise avérée dans les domaines dans lesquels on a nommé les gens. Donc c'est comme ça que cela s'est passé. C'est la première fois qu'on recule par voie de concours dans le pays.
Oui.
C'était un engagement que les nouvelles autorités avaient pris avec les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et cette promesse a été réalisée.
Oui, mais cependant, certaines personnes considèrent que ces nominations ne reflètent pas les résultats du test. Est-ce que vous aviez un regard? Quels ont été les critères de sélection? Finalement, comment
vous avez ce que vous voulez dire par ne reflète pas les résultats du test.
Ce n'est pas nous, hein.
On fait les résultats du test.
Oui. Comment vous avez fait pour la correction? Par exemple, je ne sais pas, parce que la population s'interroge.
Je vous dis, les tests ont été supervisés par le COPIREP, mais les personnes qui ont travaillé, ce sont des maisons de réputation internationale qui ont été recrutées. Donc, des maisons qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 5, 6 milliards de dollars et qui ne vont pas salir leur réputation pour une opération qui, en fait, ici, leur coûte peut-être 80, 100 000 dollars. Donc, ce sont des gens en qui nous avons confiance et nous ne savons pas pourquoi on jette la matière sur eux. Et aujourd'hui, les maisons qui ont fait cela, qui ont fait ce concours, notamment PricewaterhouseCoopers et Deloitte, ce sont des maisons qui font des audits non seulement des grandes sociétés et privées et publiques dans notre pays, mais même à travers le monde.
Certains d'autres encore vont plus loin aujourd'hui, monsieur Bernard Ménard, c'est toujours bien de donner des détails à la population, d'expliquer, certains nous ont dit que vous avez d'ailleurs suivi le point de vue de la population là-dessus, d'autres nous ont dit que le gouvernement devrait nommer des technocrates au lieu des politiciens. Est-ce vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de technocrates qui ont été nommés?
Bon, ça c'est un point de vue, mais je pense que jamais depuis que le pays existe, jamais il y a eu autant de technocrates à la tête des entreprises qu'aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on fait un concours, ne pourra être nommé que celui qui participe au concours. Donc, si vous êtes technocrate, mais vous restez à la maison, vous ne voulez pas accepter le principe sélectif du test par voie de concours, il est difficile qu'en fin de compte, vous soyez nommé. C'est un concours et tout le monde doit suivre le tamis. Et ne reste que les meilleurs parmi ceux qui sont présentés. Et c'est ce que nous avons fait, c'était justement rendre plus sélectif le recrutement pour amener une meilleure gestion de l'entreprise dans le futur.
Nous retenons qu'on se retrouve aujourd'hui avec 26 mandataires qui ont satisfait au concours organisé par le COPIREP, n'est-ce pas?
26? Non, il y en a plus que ça, madame.
Oui, au total, ça fait combien?
Non, s'il y a 26 entreprises et dans chaque entreprise, il y a 3 postes pourvus par voie de concours, vous faites 26 entreprises fois 3 postes dans chaque entreprise pourvus au concours et vous avez le chiffre. Ça fait, je pense, 78.
78.
Oui, monsieur Bernard Mena, nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet de la ministre du portefeuille. Qu'est-ce que la population peut attendre d'une telle nomination des mandataires?
C'est-à-dire, il n'y a pas que la population qui attend. Il y a aussi le gouvernement. Les entreprises publiques constituent l'un des fers de lance du gouvernement pour le développement de la nation. Donc, le gouvernement a placé sa confiance en ses mandataires, justement pour essayer de rencontrer les attentes et les préoccupations de la population. C'est ainsi que le gouvernement s'est lancé dans une phase très cruciale de réforme des entreprises publiques. Nous voulons des entreprises pas comme hier, nous voulons des entreprises productives, des entreprises créatrices de richesses et surtout créatrices d'emplois. Donc nous attendons des nouveaux mandataires qui fassent jouer leur rôle, leur sens de l'innovation, et même à l'instar de Shin Peter, qui puisse faire jouer ce qu'on appelle la création destructive. Donc nous comptons beaucoup sur les entreprises, nous comptons beaucoup sur les nouveaux mandataires.
Mais il faut pas
et à ce titre, d'ici peu, il y aura une immersion, un séminaire qui sera organisé avec le concours de la Banque mondiale et de toute personne habilitée pour justement expliquer aux mandataires ce que nous comptons faire. Chacun aura une feuille de route dans l'entreprise qu'il va diriger avec des assignations, avec des objectifs bien précis et nous ferons des évaluations en temps utile pour voir si réellement ce qui se fait cadre
quand vous parlez de temps utile, vous faites allusion concrètement à quoi? Est-ce que vous
devriez les évaluer? On déterminera le chronogramme, mais tous les 3 mois ou tous les 6 mois, nous aurons des séances d'évaluation pour savoir si les mandataires sont dans une politique ascendante pour le compte de l'entreprise ou pas.
Qu'est-ce qui va arriver au cas où les assignations ne sont pas atteintes?
Et les sanctions ne manqueront pas de tomber, ça c'est sûr.
Oui, mais on a l'impression qu'on se retrouve un peu comme dans une classe où on a des évaluations à tout moment.
Ce n'est pas une classe, madame. Les entreprises appartiennent à l'État et l'État c'est toute la population. On ne peut pas laisser quelqu'un à la tête d'une entreprise s'amuser comme si l'entreprise était un électron libre et que l'entreprise était son bien personnel.
Donc on peut dire que le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour avoir un résultat positif sur le terrain et ainsi d'aider la population à trouver quand même compte de tout ce qui se passe dans le pays, parce qu'on a enregistré, on observe un phénomène un peu bizarre partout dans les entreprises publiques, les arriérés des salaires, le plan social qui n'est pas respecté, et ainsi de suite.
Oui, là, vous avez tout à fait raison, mais le gouvernement lui-même a intérêt à passer à la vitesse supérieure, puisque le gouvernement lui-même est redevable devant le Parlement, et qui est la représentation nationale, est redevable devant le peuple. Nous sommes tous comptables, et chacun doit faire ce qu'il doit faire à la place où il se trouve.
Oui, mais on ne doit pas non plus rêver, hein, M. Bernard Mena. Nous savons qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés, notamment, pour ne citer que quelques-unes, les lignes aériennes congolaises, l'OCPT.
Au Parc national du Café.
Je suis très bien placé pour savoir qu'il y a des entreprises qui, au-delà des problèmes de gestion, ont des problèmes structurels. Donc aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont plus de charges que de recettes. Et justement, ce sont ces entreprises-là qui doivent faire l'objet d'une restructuration.
Mais oui, mais comment ces nouveaux mandataires pourront redresser ces entreprises?
Parce que là, il faut parler maintenant de 2 ou 3 feuilles de route, parce qu'ils n'auront pas une même feuille de route.
Parce que au niveau du ministère de protection, nous avons non seulement des outils de gestion, mais nous avons des instruments pour appliquer ces outils. Nous avons aujourd'hui ce que vous appelez le COPIREP, qui est un comité de pilotage pour la restructuration des entreprises du portefeuille. Donc, nous allons travailler avec le COPIREP, nous faisons des audits techniques, nous faisons des audits diagnostiques pour dégager quel est le mal dont souffre chacune des entreprises et y apporter des remèdes. Nous avons déjà commencé avec la RVA, nous l'avons fait avec la GECAMIN, et nous comptons y aller avec toutes les entreprises qui sont en difficulté. Celles qui n'ont pas de difficultés structurelles, nous devons réaménager le mode de gestion.
Alors, là, la crainte serait que cela ne puisse pas prendre trop de temps, au risque de ne pas avoir un résultat immédiat, parce que la population, c'est le résultat que la population a besoin, et dans un bref délai.
Oui, mais il faut être réaliste. Vous avez parlé tout à l'heure de l'axe. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas, une entreprise d'exploitation aérienne qui n'a pas d'avion, vous ne pouvez pas, tant qu'il n'y a pas d'avion, ne pas avoir d'arrêt de salaire. Donc, les problèmes doivent être
résolus.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Oui, mais parlons justement des lacs, hein, puisque vous avez pris cet exemple-là. Est-ce que vous comptez assister financièrement ces entreprises pour aider les nouveaux mandataires à aller de l'avant?
Bon, vous parlez principalement de lacs.
Oui.
Lacs a un fonds de commerce qui sont des lignes aériennes qu'elles ne souhaitent pas. Donc, il faut voir maintenant dans quelle forme de partenariat l'AC peut récupérer les lignes en vertu du principe de la mono-destination et trouver un leasing ou bien un partenaire qui peut l'aider techniquement à exploiter ces lignes.
Mmh.
Donc, tant que le fonds de commerce est là, il y a aussi de l'espoir.
Oui, mais vous avez dans votre politique, dans cette nouvelle politique de portefeuille, dans le cadre de la réforme des entreprises publiques, placé un nouveau mot auquel vont s'habituer peut-être les populations congolaises, le désengagement de l'État. Et cela est allé vite à l'endroit de deux entreprises, notamment l'ONATRA et la SNCC. Qu'est-ce qui a motivé le portefeuille de commencer par ces deux entreprises?
Non, d'abord, il faut bien situer les termes. Le désengagement de l'État se fait sous plusieurs formes. Pour l'instant, le désengagement de l'État, dans les entreprises que vous avez citées, va se faire avec un désengagement de la gestion. On l'a déjà fait pour la Gécamines avec le contrat Sofeco, et on va faire cela dans le secteur des transports avec la SNCC, avec l'ONATRA et avec la RVA. Donc, on va mettre des équipes de gestion mixtes. Il y aura des cadres congolais, il y aura des firmes expatriées qui vont s'occuper de la gestion de ces entreprises pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un diagnostic fiable. Est-ce que ces entreprises souffrent uniquement de mes gestions ou bien est-ce qu'il y a d'autres pesanteurs structurels qui pèsent sur ces entreprises et qui font qu'elles ne sont pas rentables? Donc, c'est, pour l'instant, le désengagement tel qu'on en parle d'une manière un peu, je dirais pas barbare, mais d'une manière un peu désordonnée dans le sens de bradage, le désengagement dans le sens de vente d'action n'est pas à l'ordre du jour.
Il ne s'agit pas d'une privatisation des entreprises.
Quand je parle de désengagement dans le sens des actions, c'est-à-dire de vente des actions, c'est ce que vous appelez la privatisation. Mmh. Cela n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Le gouvernement, ce qui est à son ordre du jour, ce sont des contrats de gestion pour améliorer la gestion de l'entreprise. Donc, c'est une assistance technique en matière de gestion.
Oui,
pour d'abord que les entreprises soient mieux gérées, pour savoir ce qu'elles valent, avant de savoir si oui ou non.
Et pourquoi n'avoir commencé qu'avec l'ONATRA et SNCC
ou pas? Donc, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
Oui. Pourquoi n'avoir commencé qu'avec l'ONATRA et SNCC? Pourquoi pas les autres, notamment la SNEL, la Régie des eaux,
l'OCPT et les NEC?
Parce que nous avons commencé d'abord
avec l'ONATRA NCC parce que nous sommes là dans le cadre d'un programme multimodal de transport, le programme TMT. Donc il est question de travailler le secteur du transport depuis le Katanga avec le rail jusqu'à Matadi avec le port. Donc parce qu'on estime que d'abord, un, c'est l'épine dorsale du pays et c'est une activité qui a, le vécu quotidien de la population, c'est une activité qui a un fort effet d'entraînement. C'est pour ça que cela,
c'est bien commencer
par cela.
Oui.
Il fallait bien commencer par quelque chose.
Certainement.
On a voulu commencer par ceux qui avaient le plus grand facteur d'entraînement sur d'autres activités.
Oui, mais...
Le transport a un facteur d'entraînement sur la pollution des cultures vivrières, la pollution du café et sur beaucoup d'autres choses, notamment la circulation des biens et des marchandises.
Oui, mais une petite précision pour tous ceux qui vous suivent à travers le pays. Hein.
Oui.
On vous suit 5 sur 5. Alors, parlons de désengagement. Au cas où l'évaluation pour ces nouveaux mandataires ne serait pas une évaluation positive, on pourrait aussi parler de désengagement de l'État pour ces entreprises, notamment pour...
Donc, si l'évaluation n'est pas positive, on peut tout autant changer de mandataire. Cela dépend des facteurs négatifs qui seront dégagés lors de l'évaluation. S'il s'appelle que le facteur négatif lors de l'évaluation est la gestion. Le désengagement au sein de l'entreprise.
Donc, après 3 mois, on peut s'attendre à nouveau à de nouvelles nominations s'il n'y a pas d'évaluation positive?
Non, je n'ai pas dit ça, madame. J'ai dit qu'on fait des évaluations soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois. La période d'évaluation n'est pas encore spécifiée. il y a des entreprises où on ne peut pas faire une évaluation dans les 3 mois, parce que dans les 3 mois, il y a tellement de choses à faire, que dans les 3 mois, on dirait seulement qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il y aura juste un début d'activité.
Oui.
Donc, cela dépendra d'une entreprise à une autre, madame.
Oui, mais c'est quand même une nouvelle manière de fonctionner. Hein. Jeter un regard dans chaque entreprise après 3 mois ou 6 mois, si ça ne marche pas.
Madame, si vous devez être conservatrice et garder l'ancienne manière de fonctionner, vous voyez où cela nous a amené.
Oui, ben alors Thomas, Ali, Bounia, disons, il a aussi une inquiétude. Avec sa réaction, il nous dit les critères intellectuels sont parfois bafoués parce qu'il y a même, selon lui, des D6 nommés ADG. Il qualifie cela de rigolo. Est-ce que vous avez.
Il n'y a aucun D6 nommé ADG qui donne le nom, monsieur.
D'accord. Alors, il y a encore d'autres réactions. Ce sont les mêmes qui reviennent.
J'ai insisté sur cela.
Oui, d'accord.
Les personnes qui ont fait le test au copyright, il y avait 6 000 personnes d'entrée de jeu, et justement, sur base des critères, et notamment des critères de diplôme, sur les 6690 candidatures, 1492 ont été retenus. Donc, aucun des 6 ne peut être retenu pour être candidat ADG, faire le test écrit et faire l'interview.
Alors, il y a Delphine Arcolesi, parce que vous êtes très suivi, hein, Monsieur Bernard Mena, qui vous encourage, mais son inquiétude, c'est que ce sont les mêmes têtes qui reviennent, selon lui, pas d'espoir pour l'avenir. Donc, on peut pas compter, on peut pas s'attendre à un impact social. Comment réagissez-vous par rapport à cela? C'est comme si c'était un gâteau partagé.
Bon, dire que ce sont les mêmes têtes qui reviennent, bon, les gens sont venus, moi je vous parle en tant que directeur de cabinet d'émission de portefeuille, donc le copyright dépend hiérarchiquement du ministère du portefeuille, enfin d'une manière titulaire. Les mêmes têtes qui sont revenues, si ce phénomène s'avère, c'est un concours. Seuls ceux qui ont présenté peuvent se retrouver à la fin.
Ce sont des personnes qui ont détruit.
Du portefeuille, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de.
Qui connaissent mieux le terrain et les aboutissants de la gestion.
Bernard Mena, avec les mêmes têtes, on peut revenir aux mêmes erreurs.
Aux mêmes erreurs.
C'est ça aussi la crainte de la population.
Le problème, c'est que c'est pour ça que justement, qu'il faut changer de méthode. Il faut mettre des nouveaux garde-fous qui n'ont jamais existé. Il faut mettre la sanction positive ou négative qui n'a jamais existé. Parce que vous savez aussi que la peur des gendarmes amène beaucoup de sagesse.
Mais la crainte entre les dire et les faire dans notre pays, il y a toujours un grand, il y a tous.
Oui, mais il est temps qu'on ne s'enferme pas dans les vieilles coutumes conservatrices. Et il est temps que nous allons vers l'innovation.
Oui, alors il y a un auditeur qui nous dit qu'il encourage le gouvernement à faire une réforme dans les entreprises publiques, car aujourd'hui, ça marche très bien, la GECAMINE. Je travaille là-bas, nous dit-il, on n'a plus d'arriérés, alors qu'à l'époque, on avait atteint plus de 100 mois d'arriérés. Faites cela aussi avec la SNEL et la Régie des Eaux, dit-il.
Je pense que ce n'est pas un secret. Nous commençons les contrats de gestion, comme on l'a fait à la GECAMINE. On va adopter cette méthode pour l'ONATRA, la SNCC et la RVA. Dans le cadre du PMT, dans le programme multimodal de transport. Et ensuite, d'ici peut-être avril-mai, il y aura des contrats de gestion dans le cadre de l'énergie, donc au niveau de la SNEL et de la Régie des Eaux.
Cela a été
annoncé, ce n'est plus un secret aujourd'hui. Et comme l'a dit l'auditeur qui a appelé Lubashi, depuis qu'on a mis le contrat de gestion à la GECAMINE, imaginez-vous que lorsqu'on a conçu le contrat de gestion, il y avait, je pense, à peu près 22 mois d'arriérés de salaire. Depuis qu'on a mis le contrat de gestion, la nouvelle équipe dirigeante mixte, qui est composée de la firme Sofeco, une firme française, et de cadres congolais, tous anciens d'ailleurs de la GECAMINE, pour dire que ce sont tous les mêmes qui reviennent. L'actuel DGA, qui est dans l'équipe de gestion mixte, a été DGA il y a 5 ou 6 ans à la GECAMINE. L'actuel PCA, qui est dans l'équipe mixte, a été ADGA dans un comité de gestion antérieur, ce qui n'a pas empêché que, depuis qu'ils sont là, avec l'équipe mixte, chaque mois, ils payent au moins le mois, et ils se débrouillent pour payer
les curiosités
et les résorber.
Monsieur le directeur,
il faut dire que les gens qui reviennent parfois, mais ils ont satisfait au test, ces gens, lorsqu'ils reviennent avec une nouvelle méthode de gestion,
ils sont efficaces,
cette positivité au niveau des résultats.
Oui, ben une question de curiosité, ces désengagements de l'État ou ces contrats de gestion ne va pas défavoriser certains agents, parce que l'inquiétude serait que ben voilà qu'on puisse se retrouver dans des cas de licenciement, dans les cas de congés techniques, des gens, parce que ceux qui viennent ne vont pas travailler avec tout le monde.
Ceux qui viennent d'abord, ils travaillent avec tout le monde, ils font un audit que j'ai appelé audit stratégique. Donc, après un certain temps, il faut un rapport avec un état de lieu, avec des possibilités de redressement, en vous disant quels sont les écueils qu'ils rencontrent au sein de l'entreprise. S'il y a pétor, ils vous disent pourquoi il y a pétor, de quel nombre il y a pétor, et selon le job description, ils vous disent tel ne travaille pas parce qu'il n'a pas d'emploi au sein de l'entreprise. Ou bien on doit augmenter l'activité pour qu'il puisse avoir un travail, ou bien en attendant, il faut trouver des mesures parce que ça pénalise l'entreprise. Et tout ce qu'ils font, ils font un rapport. C'est le gouvernement qui valide le rapport et qui décide de prendre les décisions qu'il faut. Il y a 4 ou 5 ans, le gouvernement a pris la décision au niveau de la Gétamine, par exemple. Il y a eu des départs, qu'on appelle des départs volontaires, de 10 664 agents et cadres de la Gétamine. Et c'est ce départ qui a permis à la Gétamine aujourd'hui de mieux respirer et de se relancer. Mais sur les 10 000 quelques qui sont partis, aujourd'hui, il y a déjà plus de 2 500 qui ont retrouvé de l'emploi dans d'autres secteurs, dans les entreprises qui sont venues, qui ont créé des partenariats, soit avec la Gétamine, soit qui fonctionnent tout seul.
C'est d'avoir un peu élevé du chômage dans ce pays.
Ont besoin justement de l'expertise des anciens cadres qui ont travaillé dans le secteur, dans d'autres.
Oui, Bernard Mena, on va terminer par là parce qu'on a une dernière réaction d'un auditeur. On va lire celle-là et puis on s'arrête là. Il y a un auditeur qui nous dit, bon, on se retrouve aujourd'hui avec un ADG, un DGA, un administrateur technique, un administrateur financier. Ça constitue le comité de gestion. Mais par après, on a des administrateurs. Pourquoi ce lot?
Le président du conseil d'administration.
Ça n'a aucun sens. Ça fait beaucoup de têtes à payer et ça fera une perte énorme à l'entreprise, dit-il.
Oui, mais madame, le problème, c'est que si l'on veut faire appliquer la loi, il faut soi-même la respecter. Les gens étaient nommés sous l'empire de la loi de 78 qui prévoit les organes de gestion, donc le collège de commissaires aux comptes, le comité de gestion et le conseil d'administration. C'est ainsi que ces gens ont été nommés. Lorsque vous dites que ce sont des structures lourdes, des structures budgétivores, c'est pour ça que parmi les lois proposées pour la réforme, il y a la loi sur la transformation des entreprises. Les entreprises à vocation marchande vont fonctionner désormais comme des sociétés commerciales. Des sociétés commerciales, donc des SARL. Et dans ce genre de société, les structures de gestion seront allégées justement pour réduire les charges consacrées à faire fonctionner les organes de gestion et dégager un surplus qui pourrait être relancé réorienté dans la production, qui est l'objet social même de l'entreprise qui a été créée.
Oui, mais
tout cela est l'objet des réformes les textes de loi ont été déjà adoptés par l'Assemblée nationale.
Oui.
Les textes de loi, le dernier vient d'être adopté hier par le Sénat.
Ce n'est pas pour vous contredire, Bernard.
La suite, il y aura une chambre, ici, une commission paritaire entre les deux chambres pour une harmonisation. La promulgation, à ce moment-là, nous allons passer à l'application.
Nous
pourrons réduire certains écueils, notamment ce dont a parlé cet auditeur.
S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous contredire, mais on aurait pu tout de même s'arrêter au comité de gestion, hein.
Ça aurait été violé la loi, madame.
Ça aurait été
violé la loi de 78.
Uh-huh.
Et le gouvernement est légaliste.
Voilà, il y a beaucoup de réactions qui viennent de nos auditeurs. Oui, alors il y a Claude Moussongora à UCGSP à Boutembo. Il dit cette nomination visait uniquement à satisfaire ceux qui avaient été limogés ou si vous voulez, qui ont été déçus au sein du gouvernement. Il a même cité certains cas, mais comment expliquer que certaines personnes qui ne sont pas des technocrates se retrouvent par exemple pour gérer des entreprises de matière précieuse?
C'est la même chose qui revient en fait.
C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a eu des postes qui ont été réservés au recrutement par sélectif par voie de concours. Et il y a des postes qui ont été réservés au niveau de la désignation discrétionnaire.
Oui, vous l'avez déjà dit, Bernard Mena. On va s'arrêter là. Hein. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Nous rappelons que vous êtes le directeur de cabinet de la ministre du Portefeuille. On va faire le suivi prochainement avec vous. Hein. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, madame.